Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, heureuse de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Le pape a conclu mercredi à l'audience générale tenue dans la cour Saint-Damase au palais apostolique son cycle de catéchèses sur la prière avec un accent cette fois sur la prière sacerdotale du Christ. Plus de détails dans l'actualité de l'Église avant de nous rendre au Nigeria, en Zambie, à l'île Maurice et retrouver notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le Niger, l'Éthiopie ou encore la Centrafrique seront au nombre des pays dans lesquels nous nous rendrons dans le cadre de l'actualité sociopolitique africaine. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Le pape a tenu mercredi son audience générale en direct de la cour Saint-Damase du palais apostolique, concluant la série de catéchèses sur la prière avec un accent cette fois sur la prière sacerdotale du Christ. La prière, a-t-il insisté, est l'une des caractéristiques les plus évidentes de la vie de Jésus. Au cours de sa mission, le dialogue avec le Père est le centre lumineux de toute son existence. Dans les évangiles, poursuit le pape, la prière de Jésus devient plus intense à l'heure de sa passion et de sa mort, centre de la prédication chrétienne. En Jésus se trouve le salut total et messianique qui fait espérer dans la victoire définitive de la vie sur la mort, a rappelé le Saint-Père. La prière de Jésus sur la croix est la prière la plus audacieuse car c'est le lieu où il est l'intercesseur absolu. De la vie de François sur la croix s'accomplit le don du Père qui offre l'amour sans réserve de son Fils comme prix de notre salut. La prière sacerdotale de Jésus nous fait rentrer dans le mystère de sa prière, car elle embrasse toute l'économie de la création et du salut. Dans cette prière, le regard de Jésus n'est pas seulement posé sur ses disciples, mais sur nous tous. Même dans la souffrance la plus douloureuse, nous ne sommes pas seuls. En conclusion de ce cycle de catéchèse consacré au thème de la prière, il est bon de se rappeler que nous avons la grâce non seulement de prier, mais aussi d'être accueillis dans le dialogue de Jésus avec le Père, dans la communion de l'Esprit-Saint, a conclu François, qui, en saluant les fidèles francophones, a dit
« Sono lieto di salutare i fedeli di lingua francese ».
Je suis heureux de saluer les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus de l'île de la Réunion. Dans une prière audacieuse et fervente, puissions-nous redécouvrir la beauté et la joie d'être aimés de Dieu, le Père, sauvé par Jésus sur la croix, et devenir des intercesseurs fervents pour les personnes qui vivent dans la précarité, la solitude et la maladie. À tous, ma bénédiction.
A tutti la mia benedizione.
Le Saint-Père a nommé mercredi le Père Luigi Maria Epicocco du clergé de l'archidiocèse de L'Aquila, assistant ecclésiastique du Dicastère pour la communication et éditorialiste de l'Observatore Romano. La constitution du Nigeria favorise les musulmans, créant des conditions désavantageuses pour les chrétiens et les adeptes d'autres religions. Pour cette raison, elle doit être révisée. Dans un mémorandum présenté à la commission sénatoriale sur la réforme constitutionnelle, la conférence des évêques du Nigeria appelle à cela, réaffirmant que la charte fondamentale actuelle adoptée en 1999 ne favorise pas l'unité et le progrès du pays. Il est nécessaire de mettre fin au statut dont jouit l'islam dans la constitution, écrivent les évêques, qui finit par désavantager les chrétiens et les adeptes d'autres religions par rapport à la majorité musulmane au lieu de maintenir la paix et l'unité nationale. Les évêques nigériens soulignent que la charte de 1999 est un produit et une imposition des militaires et en tant que telle présente des contradictions intrinsèques qui n'augure rien de bon pour la nation. Par exemple, la partialité, la reconnaissance et la prééminence accordées à l'islam contredisent la laïcité de l'État consacrée par les articles 10 et 38 de la Constitution elle-même. Toujours au Nigeria, le cycle d'enlèvement touchant les prêtres et religieux dans le pays se poursuit. Dimanche 13 juin, une religieuse a été enlevée à Ouangele, dans l'état d'Imo. Selon la presse nigériane, la religieuse, dont l'identité n'a pas été précisée, conduisait sa voiture quand des hommes armés l'ont dépassée puis forcée à s'arrêter. Ils l'ont ensuite obligée à monter dans leur véhicule, tandis qu'un d'entre eux a pris le volant de la voiture de la religieuse derrière le convoi. En Zambie, les membres de la conférence jésuite de réflexion théologique ont demandé aux acteurs des médias de faire preuve d'équité dans la couverture des campagnes politiques en cours avant les élections générales du 12 août prochain. Chaque Zambien a le droit d'être bien informé des messages des différents partis politiques par le biais du radiodiffuseur public, affirme-t-il dans une déclaration signée par le directeur exécutif, le père Alex Muyembe. C'est pourquoi, selon les responsables de l'Institut de recherche basé en Zambie, les médias publics doivent s'efforcer de créer une situation dans laquelle chaque parti politique a une chance égale et équitable de réussir afin de garantir des élections générales libres, équitables et crédibles le 12 août prochain. Un groupe de catholiques de l'île Maurice est à l'origine de 3 jours de prière nationale pour les défis du pays, notamment la pandémie de COVID-19 et les problèmes au niveau personnel. Dans un rapport publié mardi 15 juin sur le site web du diocèse de Port-Louis à Maurice, les laïcs catholiques sous les auspices de l'association EFATA ont programmé les 3 jours de prière, de jeûne et d'abstinence à partir du 17 juin. Après réflexion, nous avons décidé d'inviter tous les groupes de prière et tous les chrétiens de Maurice à 3 jours de jeûne, d'abstinence et de prière pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 et aux défis auxquels notre pays est confronté, indiquent les membres d'EFATA dans le rapport. Ils ajoutent « Le seul but de ce temps de prière est de rendre grâce à Dieu avec force et conviction pour notre pays et nos dirigeants ». Le 80e Conseil national des OPM, les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire, s'est ouvert mardi 15 juin dernier au centre Jean-Paul Ier de Kodjoboué à Bonoua, dans le diocèse de Grand Bassam, en présence de Mgr Paolo Borgia, nonce apostolique. Objectif, dresser le bilan 2021 de l'action pastorale de mission et ses spécificités dans le pays et d'engager des perspectives pour une institution OPM plus forte et dynamique en conformité avec sa vision.
C'est autour du thème de la prochaine journée mondiale des missions en octobre 2021 qui se tient ce 80e Conseil national des OPM de Côte d'Ivoire. Rassemblant tous les acteurs importants de cette institution dans le pays, ce conseil sera l'occasion pour eux de dresser le bilan de l'action 2021 de la mission et ses spécificités dans le pays, mais également d'en dégager des perspectives pour des OPM plus fortes et dynamiques en Côte d'Ivoire, une tâche bien grande selon le père Jean-Noël Gossou, son directeur national.
Nous savons que la tâche des OPM en Côte d'Ivoire est grande. La mission, chers frères et sœurs, c'est témoigner, c'est proclamer, vivre et faire vivre ce que nous avons vu et entendu. Nous trouverons les outils utiles pour qu'au sortir de notre assemblée, les aides missionnaires fleurissent dans notre pays et surtout dans nos diocèses.
Ouvrant les travaux de cette rencontre bilan 2021 des OPM en Côte d'Ivoire, Mgr Marcelin Yaokwadio, évêque de Daloa, président de la commission pour l'évangélisation des peuples en charge des OPM, a appelé les participants à travailler à inculquer aux catholiques un esprit missionnaire.
Il s'agit d'œuvrer à inculquer aux catholiques dès leur jeune âge l'esprit missionnaire. Nous sommes donc tous invités à travailler dans ce sens, dans nos diocèses, dans nos paroisses.
Notons que le 80e Conseil national des OPM de Côte d'Ivoire se referme vendredi 18 juin prochain. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Un soldat nigérien a été tué et un autre blessé ainsi que 2 soldats français lors de combats avec des djihadistes au Mali, a indiqué mercredi l'état-major des armées françaises. mardi au cours d'une mission de reconnaissance des soldats de la force française anti-djihadiste Barkhane et de la 114e compagnie de sécurité intérieure nigérienne ont été pris à partie par des djihadistes, selon le porte-parole de l'état-major, le général Frédéric Barbili. Un rapport de la Banque mondiale publié mardi affirme qu'au Nigeria, l'inflation portée par une forte augmentation des prix des biens alimentaires a fait basculer environ 7 millions de personnes de plus dans la pauvreté. La plus grande économie d'Afrique est rentrée en 2020 en récession du fait de la pandémie et de la chute des prix du pétrole, sa principale ressource, avant de renouer avec une faible croissance début 2021. En 2020, l'économie nigériane s'est moins rétrécie, moins 1,8% que ce qui avait été prévu au début de la pandémie, moins 3,2%. Mais bien que la croissance ait repris, les prix ont continué d'augmenter rapidement, affectant sévèrement les ménages nigériens, explique ce rapport. Pour la seule année 2020, la hausse des prix a poussé environ 7 millions de Nigériens sous le seuil de pauvreté, estime la Banque mondiale, qui précise que les prix des denrées alimentaires ont représenté plus de 60% de l'augmentation totale de l'inflation. Entre mars 2020 et mars 2021, les prix ont augmenté de 18,17% au Nigeria, selon le Bureau national des statistiques, soit le taux le plus important enregistré depuis 4 ans. Le Nigeria fait face à des défis tels que l'inflation, le manque d'emploi et l'insécurité, note le directeur pays de la Banque mondiale pour le Nigeria, Shubham Choudhury. Le Nigeria doit de toute urgence réduire l'inflation en promouvant une croissance inclusive ainsi qu'en donnant accès à des financements aux petites et moyennes entreprises pour aider à compenser l'impact des prix élevés, plaide ce rapport. La famine dans la région du Tigré en Éthiopie est en voie de se propager à d'autres provinces éthiopiennes, a averti mardi le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humaines, Mark Lowcock, au cours d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité, une assertion rejetée par l'Éthiopie. La situation devrait empirer dans les mois à venir, non seulement dans le Tigré, mais aussi dans l'Afar et l'Amara, a affirmé M. Lowcock. L'ONU et des ONG estiment à plus de 350 000 le nombre de personnes au Tigré en situation de famine, a-t-il rappelé en précisant que les responsables administratifs locaux avaient commencé à signaler des décès dus à cette cause. Outre ces 350 000 personnes, 2 millions de personnes dans les régions du Tigré, de l'Afar et de l'Amara sont sur le point de tomber à leur tour dans la famine, a ajouté M. Lowcock. Après la session du Conseil à laquelle il a participé, l'ambassadeur éthiopien à l'ONU, Taye Aske Selassie Amandé, a souligné que son pays refusait que l'organe onusien débatte du Tigré, un sujet relevant selon lui de politique intérieure. Nous sommes en désaccord catégorique avec cette évaluation de l'ONU sur la famine, a-t-il dit à des journalistes, en estimant que les données recueillies par l'organisation et les ONG ne l'ont pas été de manière transparente et inclusive. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame l'arrêt immédiat des actions hostiles visant des casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, commises par les forces de sécurité nationale et celles déployées bilatéralement dans un rapport remis mardi au Conseil de sécurité. Je suis profondément troublé par l'augmentation inacceptable et sans précédent des menaces et des incidents hostiles par les forces nationales, le personnel de sécurité déployé bilatéralement et les autres personnels de sécurité ciblant la MINUSCA, affirme le chef de l'ONU dans son rapport. Ces menaces et incidents entravent l'exécution du mandat des casques bleus et posent de graves risques pour la sûreté et la sécurité des soldats de la paix, ajoute M. Guterres. De telles actions contreviennent aux engagements du gouvernement dans le cadre de l'accord sur le statut de la MINUSCA. J'invite le président Faustin Archange Touadéra à donner suite à son engagement de veiller à ce que de telles actions hostiles cessent immédiatement et de demander des comptes à leurs auteurs, précise-t-il.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Au Niger, Ahmed Ekou alias Korondi, figure de la société civile, a été condamné mardi à 6 mois de prison, dont 2 fermes, pour avoir critiqué les gendarmes engagés dans la lutte anti-djihadiste, ont annoncé ses proches. L'activiste est accusé de diffusion de messages troublant l'ordre public et atteinte à la dignité humaine pour avoir critiqué des gendarmes investis dans la lutte contre les djihadistes présents dans la région de Difa, a précisé Mara Mamadou, autre responsable de la société civile. Un correspondant du quotidien américain New York Times au Zimbabwe, Jeffrey Moyo, a été libéré mardi sous caution après 3 semaines en prison pour avoir, selon l'accusation, aidé des journalistes étrangers à obtenir de fausses accréditations, a indiqué son avocat. La libération de Jeffrey Moyo, 37 ans, est intervenue après un appel contre la décision la semaine dernière de lui refuser une caution.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine du jour consacré aux organisations internationales et solidarité. Marie-Josée Mondo Boisboileau.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne l'engagement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, sur l'élimination du travail des enfants dans la production de coton. Le coton est l'un des tissus les plus répandus dans le monde. Ce tissu durable, polyvalent et naturel est fabriqué à partir des fibres blanches et duveteuses qui entourent les graines du cotonnier. Mais sa production est fortement tributaire des ressources naturelles et de la main-d'œuvre dont des enfants font malheureusement souvent partie. Les enfants participent à des tâches très variées dans l'industrie du coton, dont la préparation des terres, la manipulation des pesticides et la cueillette à la main des boules de coton. Le Mali est le 2e plus grand producteur de coton en Afrique et le travail des enfants dans cette industrie y est répandu, ce qui entretient le cycle de la pauvreté pour leurs familles et communautés. Un grand nombre des enfants qui travaillent dans les champs de coton au Mali ne sont pas scolarisés. Cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO et l'Organisation internationale du travail, le projet Clear Cotton offre aux familles rurales une formation et des intrants qui leur permettent de se lancer dans d'autres activités rémunératrices telles que l'élevage de volailles ou de petits ruminants et le maraîchage et d'augmenter ainsi le revenu de leur ménage. Ces familles peuvent ensuite engager des travailleurs journaliers adultes pour le travail sur le champ et payer les frais de scolarité de leurs enfants. Dans le cadre de ce projet, la FAO a formé près de 400 cultivatrices et cultivateurs de coton grâce à des champs-écoles de producteurs sur l'élevage de volailles et la production de sésame, une culture de rente plus rémunératrice ainsi que sur la production de cultures maraîchères telles que les pommes de terre, les oignons, les échalotes et les tomates. Ce projet a également donné lieu à la création d'associations rurales d'épargne et de crédit qui sont des structures locales de financement des projets rémunérateurs. Grâce à ces nouvelles sources de revenus et à un meilleur accès au financement, les agriculteurs locaux peuvent investir dans une main-d'œuvre externe et envoyer leurs enfants à l'école. Les acteurs de ce projet travaillent également avec les clubs d'Imitra de la FAO dans les communautés agricoles pour sensibiliser les populations au travail des enfants et à l'autonomisation des jeunes et pour encourager le dialogue et l'action. Les clubs d'Imitra sont des groupes de femmes, d'hommes et de jeunes qui se réunissent pour amener des changements dans leur communauté. Les discussions portent sur le travail des enfants, qui est un vrai problème dans les communautés rurales. La FAO œuvre depuis plusieurs années à un vaste programme qui vise à aider les États membres à lutter contre le travail des enfants dans l'agriculture et à promouvoir le travail décent dans les zones rurales. Le travail des enfants dans l'agriculture est un problème mondial et une violation des droits de l'homme qui nuit aux enfants, perpétue la pauvreté rurale et porte préjudice au secteur agricole. L'Organisation des Nations Unies a proclamé 2021 année internationale de l'élimination du travail des enfants et la FAO se dit fière du travail de longue haleine qu'elle a entrepris avec ses partenaires en vue de s'attaquer aux causes profondes de ce problème. Grâce au projet Clear Cotton, les enfants pourront aller à l'école et mener une vie saine. Les enfants, d'où qu'ils viennent, ont droit à leur enfance.
Place à présent à Donatien Nyembo pour la rubrique sur la jeunesse.
Commençons notre rubrique sur la jeunesse par la célébration mercredi en Afrique du Sud de la Journée nationale de la jeunesse. Une journée à célébrer de manière plus sobre, car l'Afrique du Sud est encore au milieu de la troisième vague de la pandémie de COVID-19, mais une journée importante quand même. Ainsi, dans un message, Mgr Peter Holliday, évêque de Kroonstad, explique aux jeunes le sens de l'anniversaire qui tombe aujourd'hui les 16 juin. Cette journée spéciale, lit-on dans le document, ne peut passer sans reconnaître la merveilleuse jeunesse de notre diocèse et de notre pays. Invitant donc les jeunes à être responsables et à respecter les règles hygiénico-sanitaires en vigueur afin d'éviter de nouvelles contagions par le coronavirus, le prélat les exhorte en même temps à se sentir fiers d'être catholiques en tant que témoins de Jésus dans les familles, les communautés et les amitiés. Ayez le courage de défendre Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, souligne encore l'évêque. Mgr Holliday rappelle ensuite les origines de la Journée nationale de la jeunesse. C'est en effet le 16 juin 1976 que Hector Peterson, un activiste sud-africain, a été tué lors des affrontements de Soweto, un épisode dramatique symbole de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Faisant mémoire des jeunes qui, à l'époque, se sont levés pour témoigner de l'injustice dans le pays, le prélat a invité les jeunes d'aujourd'hui à continuer à proclamer l'évangile de Jésus et à témoigner de lui dans la lutte pour la justice et la paix. Certes, il faut du courage pour être des catholiques engagés, écrit l'évêque de Kroonstad. Mais c'est ce que Jésus demande, d'où l'invitation à ne jamais perdre espoir, également dans le contexte de la pandémie qui, dans toute l'Afrique du Sud, a provoqué jusqu'à présent 1,76 million d'infections et plus de 58 000 décès. Dieu ne nous a pas oubliés, a souligné le prélat. La promesse de Jésus est toujours vraie, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le message épiscopal se termine par une invitation à prier ensemble pour la guérison de l'Afrique du Sud et du monde entier. Parlons aussi du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs qui a organisé en collaboration avec Inda Jeunesse Action le mardi 15 juin une conférence virtuelle sous le thème « Conflit de travail des enfants et défis de la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants ». Une conférence qui fait suite à la célébration de la journée de la lutte contre le travail des enfants fêtée le 12 juin de chaque année. Considéré comme un fait normal en Afrique, le travail des enfants est souvent relié à la question de l'abus de pouvoir sur ces derniers. L'une des causes principales de ces phénomènes reste le conflit. L'Afrique subsaharienne est la région du monde la plus touchée. Un enfant sur cinq en Afrique est astreint au travail des enfants. Cependant, ces fléaux touchent tous les pays. La prévalence de travail des enfants se situe entre 3% et 7% à travers le monde. Les facteurs du travail des enfants sont multiples. Lorsque l'enfant se déplace suite à une guerre, il est obligé de changer de mode de vie. La pauvreté oblige les parents à envoyer leurs enfants travailler pour subvenir aux besoins de toute la famille. L'absence de certificat de naissance des enfants qui ne peuvent ainsi prouver leur identité et leur âge face à une situation d'exploitation illégale. L'accès difficile à la scolarité et le système éducatif défaillant, frais de scolarité, violence à l'école ou sur le chemin de l'école, éloignement géographique sont autant d'obstacles à l'éducation et des facteurs aggravants au travail des enfants. Le faible niveau d'éducation et d'information des parents qui ne connaissent pas l'impact négatif du travail sur leurs enfants, mais aussi la législation sur le travail infantile en vigueur et l'impact positif de l'éducation, l'intérêt des employeurs où les enfants sont une main-d'œuvre bon marché. L'ambassadeur américain au Mali, Dennis Akins, a rencontré les lauréats maliens de la bourse Mandela Washington 2021 pour discuter de l'engagement des États-Unis en Afrique et du rôle essentiel que les jeunes joueront dans l'avenir du continent. La bourse Mandela Washington est le programme phare de l'initiative pour les jeunes leaders africains, créée en 2014 pour renforcer l'engagement des États-Unis auprès des jeunes en Afrique. La discussion s'inscrivait dans le cadre d'une orientation de 2 jours visant à préparer les 7 boursiers maliens au programme d'échange qui commence le 21 juin et qui se déroulera virtuellement cette année en raison de la crise sanitaire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Niamien. Heureuse de vous l'avoir présentée, merci de l'avoir suivie en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican.
Quand le cœur est blessé, quand la vie est brisée, quand on est déchiré, est-ce possible d'aimer? Quand on est bafoué, que l'on est rejeté, quand on est méprisé, est-ce possible d'aimer? Oui, c'est possible, mais si difficile. Différence, oui, c'est possible.